Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur cette libre antenne du dimanche. Vous le savez, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin dans cet espace de liberté et de confidence. Toute l'équipe de la libre antenne est là pour vous ce soir. Julien Blanc à la réalisation, Cindy et Nicolas au standard. Alors quel que soit ce que vous avez sur le cœur, venez nous en parler ce soir. Partageons des émotions, des mots et plus globalement une énergie. Parce que quand on y réfléchit, tout est énergie. Et les gens avec qui nous partageons la nôtre sont très importants. Selon le coach Jim Rohn, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Finalement, c'est assez logique et simple à comprendre. Par un effet miroir souvent inconscient, nous sommes influencés par les gens qui nous entourent et nous finissons par certains côtés à leur ressembler. C'est d'ailleurs comme ça que les groupes se forment. Partageons donc la plus belle énergie possible ce soir sur Europe 1. 3 chemins pour nous joindre. 2 téléphones, vous faites le 3921 et vous vous laissez guider. Les SMS, surtout pour réagir, donner votre point de vue, soutenir ou conseiller. Là, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot « nuit » et en majuscule suivi de votre message. Et puis les mails, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Nous sommes là, vous aussi? Alors on peut commencer.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et on commence avec quelqu'un qui nous appelle de bien loin. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Où êtes-vous?
Bonjour.
Où êtes-vous?
Aux États-Unis, sur la côte ouest.
Dans quelle ville?
San Francisco, à côté de San Francisco.
Et donc là, il est quelle heure chez vous?
Il est 2h. 2h de l'après-midi, 14h.
D'accord. Mais écoutez, soyez...
Donc moi, je suis sous le soleil.
Oh, nous, on est sous la pluie à Paris. Alors, soyez la bienvenue, Sarah. Dites-moi ce qui vous amène si loin de chez vous.
Si loin de chez moi et de la famille. Et justement, je voulais parler de la famille et... Oui. Plus spécifiquement d'un sujet qui a été évoqué souvent sur cette antenne d'un et de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire soit de la part de personnes qui ont choisi de se couper de leur famille. Et j'entendais encore il y a quelques jours une dame qui expliquait avoir fait ce choix. Mmh. Et puis aussi du côté de ceux qui restent, enfin de tous les autres qui en souffrent. Voilà, et je comprends bien qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Yeah. Moi, en fait, c'est plutôt par rapport à ma mère que ça me désole, puisque mes deux parents ont maintenant près de 80 ans. Et puis, ma mère voit les années passer, et donc elle est sans nouvelles directes, en tout cas, de mon frère.
Alors, d'accord. Racontez-moi le socle. À la base, vous êtes 2 enfants ou plus que ça?
3. Nous sommes 3, 2 filles et un garçon.
D'accord, 3 enfants. Des parents qui ne se sont pas séparés?
Non.
Non, donc ils sont toujours ensemble?
Mm-hmm.
Et une enfance qui se passe comment avec les 3?
Alors, c'était une enfance normale, c'est-à-dire pas de maltraitance, pas de situation précaire, pas de toutes ces...
Pas de drame.
Ces préoccupations, voilà. D'accord. Mais quand même une famille assez anxiogène. Assez anxiogène, plutôt par rapport à mon père... qui est quelqu'un qui a eu des épisodes dépressifs, qui est anxieux. Enfin, en tout cas, dans la famille, on a beaucoup d'antécédents de gens anxieux. Et dans ce climat anxiogène, du coup, ça n'a pas été toujours facile. Après, on l'a vécu différemment selon nos 3 tempéraments. Mon frère est le dernier. Il a 7 ans d'écart avec ma sœur et donc 9 avec moi. Mmh. Et lui, je ne sais pas si c'est parce qu'il est un garçon, mais en tout cas, les relations avec mon père ont été très difficiles pour lui. Et puis, il a développé un TOC. Ah. À cette époque-là, donc, c'était, il avait peut-être 13 ans, peut-être 13-14 ans, quelque chose comme ça.
Quel TOC?
Et on ne connaissait pas encore
quel TOC
un TOC de propreté.
Eh oui.
Mmh. Un TOC de propreté. Ouais. Et à cette époque, on ne connaissait pas encore bien tout ça. Bon, on remarquait. Mais, et en fait, moi, je pense que c'est un problème que que beaucoup de parents se posent encore aujourd'hui quand on remarque quelque chose chez son enfant, un TOC.
Alors pardon, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif.
Ouais.
C'est-à-dire que la personne a tendance à faire la même chose en boucle plein de fois, pour se rassurer, en fait, c'est une angoisse.
Et ça peut devenir un vrai handicap, franchement.
C'est un handicap social, époque, bien sûr.
Ouais. Et ça n'a pas été diagnostiqué, bien sûr, on l'avait remarqué, mais alors, des fois, c'est ce que je disais, en tant que parent, on ne sait pas trop quand on remarque quelque chose, est-ce qu'il faut ne rien dire, attendre que ça passe. C'est pas facile, encore aujourd'hui, de savoir, je trouve, je ne sais pas si d'autres personnes ont aussi vécu ça, que ce soit le bégaiement ou d'autres TOC qu'on peut remarquer, on peut se dire, bah, ça va passer. On en a tous plus ou moins, je pense, des TOC.
Oui,
en
bien
fait.
Sûr. Bien
une
sûr.
Question de degré.
De dosage. Mais ce qui peut se passer, ce qui peut se passer aussi, c'est que la personne qui a un TOC est souvent aussi dans l'évitement et peut essayer de cacher de manière générale les choses. Donc c'est ça qui est compliqué pour les parents aussi.
Et c'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler et on a peur de braquer, on a peur d'aggraver.
De mettre mal à l'aise.
Voilà. Donc, mon frère a développé ce TOC qui était pour lui très handicapant. Et puis, les relations avec mes parents se sont vraiment tendues jusqu'au moment où il a décidé de couper tout contact.
À quel âge a-t-il décidé ça?
Je dirais... je ne sais même plus. Il a 40 ans maintenant. Je dirais que ça fait entre peut-être 5 et 10 ans, je ne sais plus exactement.
Donc quand il était largement adulte, c'est ça que je voulais savoir.
Oui.
Il n'est pas parti en étant jeune ado, quoi.
Non, mais il est passé par des moments très difficiles, y compris une tentative de suicide, au moins une. Moi, ce qui me rend vraiment triste, c'est que... Voilà, moi, ce que je me dis, c'est que mes parents n'ont pas mérité ça, entre guillemets, parce qu'ils ont fait, comme vous le dites souvent, on fait comme on peut. Et puis, et j'aimerais bien... Et alors, mon frère, aujourd'hui, il ne va pas trop mal par rapport à ce que ça a été. Il a un travail régulier, il a une vie sociale. Alors, moi, je suis en contact avec lui de temps en temps.
Ah, c'est ce que je voulais vous demander. Donc, avec vous, il n'a pas coupé?
Non, il n'a pas coupé. C'est très irrégulier et il parle aussi avec ma sœur.
Bon.
Donc, toutes les deux, on arrive à avoir quelques nouvelles. Mmh. Et puis, évidemment, on les transmet à mes parents. Mais c'est quand même très douloureux pour ma mère, je sais que c'est très dur, et puis moi aussi j'ai du mal à imaginer qu'un jour un de mes enfants puisse ne plus vouloir...
Et oui, parce que vous êtes maman maintenant.
...me contacter. Ouais. Et je me dis, mais... Ouais. Et, donc moi je le vis pas trop mal, le fait qu'il ait fait ce choix. Je pense que ce choix, il l'a fait par... vraiment parce qu'il en avait besoin, à un moment donné. Mais maintenant qu'il va mieux... Je voudrais bien qu'au moins il puisse répondre à ses mails quand elle lui écrit, parce que c'est dur pour elle, et puis les années passent, et puis voilà quoi, est-ce que ça va durer comme ça jusqu'à la fin? Et je me demande ce que moi je peux faire.
Alors moi j'ai plusieurs questions à vous poser, Sarah. Quand vous dites que ça a été très tendu avec son père, quel a été le comportement de votre maman?
Alors ma mère était assez protectrice avec nous par rapport à mon père, c'est-à-dire qu'elle prenait plutôt le côté de ses enfants. Moi, c'était pareil avec mon père, c'était pas facile non plus, et elle prenait notre côté. Donc, c'était pas un couple parental qui fonctionnait bien. Quoi. Il y avait mon père d'un côté et puis ma mère qui voulait toujours. J'avais un père assez impulsif et qui pouvait se mettre en colère facilement. Et moi, du coup, j'en avais peur. Et mon frère, quand il est venu plusieurs années plus tard, il en avait. Je pense pas que c'était de la peur, mais mon père, en fait, communiquait assez brutalement, était assez négatif, genre dire « mais tu n'arriveras jamais à rien », ce genre de choses. Et ça a beaucoup affecté mon frère, peut-être en plus en tant que garçon.
Et c'est ça, parce qu'il y a probablement une comparaison avec le père, quoi.
Ouais, et puis mon frère a aussi estimé, et c'est peut-être vrai, on peut pas vraiment juger le vécu des gens, mais lui, il avait 7 et 9 ans de moins que nous. Et sûrement qu'à la table familiale, nous, on avait des discussions avec mes parents, tout ça. Et puis lui, il était le petit à qui on ne demandait pas trop son avis, peut-être.
Mmh.
Moi, l'image que j'en ai, c'est qu'il a été très, très protégé par ma mère. Très, très protégé. Et puis, je pense que le couple parental n'a pas su... et je ne blâme pas, parce que moi, je suis un peu... Je suis pas dans le même cas de figure, mais bon, on n'a pas non plus les mêmes principes d'éducation avec mon époux. Je pense que le couple parental n'a pas du tout montré un front uni. Puis, il n'y avait pas de discussion sur comment gérer les choses. C'était pas vraiment une bonne communication. Et donc, quand je dis que c'était tendu avec mon père, c'est que voilà, mon père était assez négatif et puis ne savait pas communiquer, quoi.
Alors, c'est ça que j'aimerais savoir. Quand vous dites que c'était tendu avec mon frère et mon père, concrètement, ça veut dire c'est allé jusqu'où ? Il n'y a jamais eu de maltraitance physique ?
Non, non.
Mais une maltraitance verbale, alors, si je comprends bien.
Oui, des choses qui ne passaient pas, quoi. Et je demandais à ma mère, justement, en préparation de cette conversation que je pensais avoir avec vous, à quel moment est-ce que mon frère... Est-ce qu'il y a eu un événement précis qui lui a fait couper les ponts ? Et oui, il y a eu une chose. C'est qu'un soir, il discutait, je pense que ça remonte à 10 ans ou peut-être plus, il discutait avec ma mère depuis des heures sur, sur ses souffrances, etc., sur ce qu'il avait à leur reprocher. Oui. Et puis mon père, il est arrivé et il a dit « Après tout ce qu'on a fait pour toi ».
Aïe.
Et ça a été le... Ouais, c'était très maladroit. C'était très maladroit. Mais je peux comprendre aussi. Enfin, moi, je peux comprendre les deux
les
côtés.
Les deux, mais oui. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que ça a été un long chemin pour votre frère d'arriver à aller oser dire tout ça. Et je pense que ce qu'il attendait, c'était tout sauf cette remarque-là, quoi.
Ouais. Et puis, ce qu'il aurait voulu faire, parce qu'en fait, il en voulait beaucoup moins à ma mère, mais ce qu'il aurait voulu, c'est que ma mère quitte mon père.
Mais ça, c'est pas son problème à lui, ça.
Bah, ouais. Elle aurait voulu qu'elle montre sa solidarité, j'imagine, avec lui, en faisant ça, et ma mère ne l'a pas fait. Et donc, voilà, donc du coup, il a coupé les ponts avec les deux. Alors, j'ai quand même réussi, il y a 4 ou 5 ans, à organiser une rencontre entre elle et lui, alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années. Et ça ne s'est pas très bien passé. Donc, j'étais vraiment déçue, parce que j'espérais que ça allait renouer un lien. Et puis, non.
Alors, je vais vous poser une question un peu brutale, mais pourquoi est-ce que vous prenez ça sur vous ?
Parce que je vois ma mère souffrir et que je voudrais faire quelque chose.
Eh oui, mais vous savez que chacun est responsable de sa vie. Et vous voyez bien, vous avez eu une petite marge de manœuvre et ça n'a pas fonctionné. On ne peut pas, on ne peut pas empêcher les autres d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils veulent faire. On peut conseiller, on peut compatir, on peut être présent si l'autre le demande, mais votre frère ne vous a rien demandé, d'après ce que je comprends. Il ne vous a pas demandé de faire l'intermédiaire ?
Non, c'est vrai.
Et donc fatalement, même si tout ça part d'un très bon sentiment, ça veut dire qu'il a sa propre expérience à faire pour apprendre et grandir de tout ça. Et vos parents probablement aussi. Et ça, c'est entre eux.
Je crois que ma mère, elle a fait un grand trajet psychologique, enfin seule en fait, parce qu'elle a jamais consulté, mais elle vous écoute beaucoup. Je ne pense pas qu'elle serait très contente que je sois sur l'antenne ce soir, mais tant pis.
Je l'embrasse au passage, en fait... si ça peut arrondir les angles.
Et elle, en fait, je pense qu'elle a demandé pardon, parce que voilà ce qui se passe souvent avec les parents de cette génération-là, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. J'ai quand même remarqué souvent... qu'à cette époque-là, je pense que les parents, c'était les parents, les enfants, c'était les enfants.
Et les parents avaient toujours raison.
Voilà. Ouais. Mais elle a fait ce chemin-là, et mon père, lui, non. Quoi. Donc lui, en fait, il vit beaucoup mieux cette séparation, parce qu'il se dit, ben, tant pis, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors que ma mère, elle voudrait réparer, elle voudrait...
Qu'est-ce qu'elle regrette, votre maman ? Si elle a demandé pardon, alors, elle a demandé pardon pourquoi ?
Bah, de la souffrance, tout simplement. Voilà, quoi. Alors, elle pense qu'elle aurait pu faire des choses différemment, qu'elle aurait pu l'engager à consulter. Elle l'avait fait, mais elle n'a pas insisté.
C'est ça que je voulais vous demander. À l'époque où il a commencé ses TOC, il n'a pas été suivi du tout ?
Pas au début, non. Ça a pris plusieurs années. Et puis, quand il a été enfin pris en charge, il a eu un tas de traitements et il a été abruti de médicaments. Et donc, il a eu une mauvaise expérience avec ça.
Ce n'est pas une solution, ça.
Non, donc ça n'a pas marché. Moi, j'ai moi-même mes propres phobies. Je sais qu'il y a où on doit se, enfin tout ce qui est thérapie comportementale et donc j'aurais voulu que lui il fasse ça pour son TOC. Enfin, il me semble que c'est une des approches, mais bon, je suis pas experte. Mais il a pas vraiment, enfin je sais pas, je pense pas qu'il a vraiment essayé de gérer ça.
Si ça a mal commencé. Sarah, pardonnez-moi, je dois marquer une courte pause.
Oui.
Et on reprend notre conversation tout de suite.
D'accord.
Merci à vous.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Sarah.
Oui.
Vous êtes là. Vous avez dit quelque chose il y a un instant qui m'a interpellée. Vous m'avez dit que vous avez des phobies. Vous avez la phobie de quoi?
Ouais, claustro.
C'est intéressant. Vous avez un frère qui a des TOC. Vous avez une phobie. Et votre sœur, est-ce qu'elle a des soucis?
Est-ce qu'elle a des soucis? Elle a eu du psoriasis, ma mère aussi. Ça, c'est aussi une façon, je crois. Enfin, je me sens que c'est aussi lié au stress.
C'est beaucoup lié, lié à la relation avec maman, souvent, ça, oui.
Ouais, alors elle a une relation beaucoup plus compliquée que moi avec ma mère. Elle a une relation assez conflictuelle et moi je suis plutôt dans le... Moi je suis inconditionnellement ma mère. Donc c'est... Ouais, c'est très différent.
Non, ça veut quand même bien dire que si les trois enfants développent des réactions comme ça, il y a vraiment eu un souci à la base.
Ah, il y a eu un souci. Il y a eu un souci... Ouais, moi je le... Oui, ben oui, d'ailleurs ma mère l'analyse bien. Elle, à l'époque, elle était... Mon père l'impressionnait, elle ne savait pas trop gérer. Et puis après, elle a réussi à renverser les choses, mais je pense trop tard, quoi. Parce que maintenant, ils sont un couple qui marche bien. Parce qu'elle a pris, de l'assurance. Et puis, en fait, mon père, il avait l'air tyrannique. Mais en fait, c'était de la faiblesse, finalement. En fait.
Ah bah toujours. Ça, on le sait. Ouais. Les gens qui se comportent comme ça, ça n'est jamais, ça n'est jamais une preuve de force. Bien au contraire. Ouais. Justement, est-ce que vous savez d'où vient ce comportement chez votre papa? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit comme ça? Qu'est-ce qui lui a manqué?
Alors lui, il ne parle pas trop. Ouais, il parle pas trop de son enfance, et donc parce que ouais, il s'est passé des choses difficiles aussi. Il avait des parents qui s'entendaient pas du tout. Après, avec ses frères et sœurs, je pense que ça allait, mais ses parents s'entendaient pas du tout. Il y avait même des scènes assez violentes.
Et oui, voilà.
Mais lui, il en parlait pas. Il a un peu. Il a oublié tout ça, quoi.
Bah, cette génération et les hommes en plus en parlaient très peu. Hein. On les a pas éduqués comme ça.
C'était à la campagne. C'était à la campagne.
On disait tais-toi, prends sur toi et arrête de pleurer, quoi.
Ouais. Alors pour en revenir à mon frère, maintenant, nous sommes tous contents de savoir qu'il va bien, quoi. Ça c'est vraiment un gros soulagement et je me rends compte qu'il aurait pu effectivement disparaître complètement et ne parler ni à moi ni à ma sœur. Mm-hmm. Donc on a quand même cette chance de savoir qu'il va bien. Donc c'est ce que dit ma mère aussi, c'est que pour elle le plus important c'est qu'il aille bien, même si c'est sans elle. Mais elle est quand même, elle en souffre quoi, elle y pense tous les jours et puis voilà, j'aimerais bien faire quelque chose, mais peut-être que je peux rien faire. Je me demandais quand j'écris à mon frère, est-ce que je peux lui suggérer de lui demander.
Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne vous appartient pas, Sarah.
Ça s'appelle
lâcher prise. Ouais. On a du mal quand on aime les gens à comprendre que nous ne sommes pas là pour vivre leur expérience à leur place et que c'est même très égoïste. Parce qu'en empêchant quelqu'un de vivre son expérience, on l'empêche de grandir. Vous savez, ça me rappelle cette métaphore dont j'ai souvent parlé ici de la chrysalide et du papillon. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme qui voit un papillon qui cherche à sortir de sa chrysalide et qui essaye. Alors elle le regarde, elle dit ça va être beau. Et puis au bout de plusieurs heures, il n'arrive pas à sortir. Alors elle prend un petit canif, elle fait une toute petite entaille et le papillon sort enfin de sa chrysalide. Alors elle est toute contente de l'avoir aidé. Et elle attend qu'il s'envole. Elle dit ça va être magnifique quand il va s'envoler. Sauf qu'il ne pourra jamais s'envoler parce que toute l'énergie, toute la force qu'il aurait dû construire pour sortir lui-même de sa chrysalide, il n'a pas pu la construire.
Ouais. Et souvent, mais là, on en arrive un peu à la fin. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas vivre éternellement, mes parents. Mais je ne peux pas vraiment accepter le fait qu'elle ne revoie jamais son fils. Quoi. Je trouve ça horrible.
Je comprends ça, mais ça ne vous appartient pas, une fois encore.
Ben oui, encore. Il faut que j'accepte ça. Ouais.
Ça n'est pas votre vie. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents non plus toute la vie. Les choses peuvent changer, mais
c'est vrai.
La marge de manœuvre que vous avez, elle est très fine et vous l'avez déjà utilisée et ça n'a pas fonctionné.
Oui.
Et donc malheureusement, là, à un moment donné, pour vous, il est important parce que je sens que ça vous pourrit la vie aussi au quotidien, cette histoire-là. Et je crains qu'il y ait aussi quelque chose de l'ordre de la projection parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je ne peux pas imaginer que ça m'arrive avec mon fils.
C'est vrai, ça serait... Ouais, ben oui.
Et oui, mais
ça fait peur, ça fait peur.
Détachez-vous de ça, chacun son histoire de vie, ça n'est pas parce que ça se passe comme ça entre votre frère et votre mère que ça se passera comme ça avec votre fils et vous.
Ben oui, mais ce que je me dis, c'est qu'on fait des erreurs en tant que parents et puis... Après, ça peut avoir des conséquences dramatiques.
Justement, apprenez de ces erreurs-là. Et vous l'avez déjà fait.
J'essaye vraiment.
En y réfléchissant, en ayant déjà fait tout ce chemin-là de réflexion, apprenez de ça, apprenez à communiquer le plus possible avec vos enfants, à leur dire vos erreurs, Alors demander pardon, c'est extrêmement important de savoir demander pardon à son enfant aussi, lui dire voilà, là je me suis trompée, là j'ai pas eu le bon comportement, mais je ne suis qu'un être humain, je fais aussi des erreurs.
Ouais, j'essaye de faire ça aussi, parce que c'est vrai que, en vivant dans ce pays aussi, là on est dans une ambiance très, très différente avec l'éducation, l'école, tout ça, c'est beaucoup
vrai.
Plus bienveillant,
ouais.
Il y a beaucoup moins de frontières entre les... Pas assez d'ailleurs des fois, mais entre les enfants, les enseignants, puis les parents et les enfants aussi. Donc je suis un peu baignée là-dedans. Et puis moi aussi, quoi, c'est vrai que maintenant les parents ne sont plus sur un piédestal. Voilà.
Et tant mieux.
Ouais. Donc j'essaye effectivement moi-même de ne pas reproduire. Ouais.
Et tant mieux, c'est vrai. En plus, c'est vrai que vous êtes dans une autre culture. Pourquoi vous êtes partie là-bas d'ailleurs, si ce n'est pas indiscret?
Je suis partie là-bas pour quelqu'un.
Ah.
Et en fait, j'ai l'impression d'être partie contre mon gré, en fait, parce que quand je suis partie, j'étais sûre que ça ne marcherait pas et que je reviendrais. Puis finalement, je suis restée ici. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que moi, j'ai pas voulu aussi m'éloigner, même si ce n'est pas conscient.
C'est un peu pour ça que je vous posais la question aussi.
Ouais. Ça n'a pas été conscient, mais c'est vrai que la famille... je les adore et ils sont tous extrêmement... Enfin, mon père et ma mère sont vraiment des bonnes personnes, vraiment. Mais ils sont aussi anxiogènes.
Bah, c'est l'une des premières choses que vous avez commencé à me dire tout à l'heure. Vous avez été biberonnée à l'angoisse, quoi.
Oui, vraiment, oui. Et peut-être que d'être ici, ça m'a... Même s'il me manque beaucoup et que les années passent et que ça, c'est un autre problème dont on pourrait parler, l'expatriation. Les années passent et je regrette de ne pas passer le temps avec eux, ma sœur, mes neveux, tout ça. Puis d'un autre côté, moi j'ai l'impression d'être un peu à l'abri ici.
Et voilà, vous avez mis le doigt dessus. Vous savez, nous sommes faits de plusieurs parties. Donc il y a une partie de vous qui regrette, mais il y a une partie de vous qui est probablement qui a sauvé sa peau.
Peut-être,
et quand j'entends que les trois enfants développent des symptômes un peu différents comme ça, des manières de faire, je me dis qu'effectivement chacun a trouvé sa solution. Pour votre frère, c'est celle-là. C'est comme si votre frère vous disait « je t'ordonne de rentrer en France ».
C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. Et c'est vrai.
Et oui, c'est pas son problème. C'est pas à lui de décider ça.
Ouais.
Pas plus que vous devez choisir pour lui ce qu'il doit faire ou pas faire. Vous êtes dans l'empathie ensemble. Vous êtes quelqu'un qui est principalement dans l'empathie.
Très empathique. Exactement. C'est ce que, en fait, je voulais le mentionner et je l'ai pas mentionné. Mais oui, je suis empathique avec lui.
Avec tout le monde.
Empathique avec ma mère. Oui.
Ça s'entend, oui, ce sont le profil empathique. Je connais bien, j'ai le même.
Ouais.
Mais justement, c'est là où il faut être prudent.
Quand on est prof, c'est bien pour le métier de prof que je fais ici.
C'est bien, mais il faut aussi faire la part des choses.
C'est vrai.
Et ne pas imaginer,
une fois
de plus, c'est, je vous provoque un peu, mais c'est très égoïste de penser qu'on est responsable du malheur des autres. Parce qu'on les empêche de grandir et de vivre leurs expériences.
Alors par rapport à ma mère, il y a le choix de lui en parler ou de ne pas lui en parler, parce qu'elle, en fait, elle n'en parle à personne. Elle n'en parle pas à ses frères et sœurs. Avec mon père, elle en parle peu, puisque lui, il ne veut pas, donc elle est un peu seule avec ça. Et voilà, donc je ne sais pas s'il faut que je lui en parle ou pas. Quoi.
C'est sa responsabilité aussi. Si elle est seule, elle peut soit choisir de voir un thérapeute, soit avoir des amis avec qui elle peut partager ça. C'est à elle aussi, ça.
Bon, il faut que je coupe le cordon, alors aussi.
Ça serait peut-être pas mal. Oui, il y a des SMS qui arrivent. Il y a quelqu'un qui nous dit « Sarah ne doit pas porter la souffrance de sa mère, chacun les siennes ». Il y a Anne qui vous dit « On ne peut pas cheminer à la place des autres ». Sarah peut entendre, donner son point de vue tout en respectant le choix de son frère.
C'est vrai. Mais elle, ma mère, elle a vraiment souffert pour moi dans des circonstances où j'étais vraiment en souffrance. Et les parents, ils souffrent pour leurs enfants. Et moi, il y a un moment donné où je trouve que ça s'inverse, quoi, quand les parents deviennent faibles. Voilà, en fait, c'est un peu ça, une situation d'inversement.
Il n'y a pas un peu de culpabilité derrière tout ça, non ?
Si. Peut-être partie, peut-être. Ouais, aussi.
C'est ça que vous cherchez à compenser aussi. Hein.
Je pense aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Mais une fois encore, ça va.
Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, quoi, sauf d'accepter et puis d'être contente pour lui qu'il aille bien.
Déjà.
Surtout.
Et vous rappelez que personne n'appartient à personne. On ne fait pas des enfants pour soi, on les fait pour eux. Et là, ils sont votre mère et lui sont chacun dans une expérience de vie. Alors être là, si on vous le demande, bien sûr. Écoutez, si on vous le demande, bien sûr. Aider, si on vous le demande. Mais d'après ce que j'ai compris, vous avez aussi une vie, vous avez un compagnon, des enfants.
Oui.
Et je pense que vous avez probablement plein de choses à gérer autres que les problèmes des autres.
C'est vrai, c'est vrai. Ben, merci beaucoup de de me rassurer, disons, de me décharger.
J'espère.
De ça.
Ça n'empêche pas l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour.
Ben oui. Et en fait, pour moi, c'est une marque d'amour, quoi, quand on fait quelque chose.
C'est bien pour ça que je souligne ça avant qu'on se quitte. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Merci aussi à tous les auditeurs qui envoyaient leur SMS pour donner leur avis. C'est bien utile aussi. Merci beaucoup.
Réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit, Sarah. Je vous souhaite un bel après-midi, alors, pour le coup.
Oui, c'est l'après-midi. C'est l'heure de corriger mes copies. Voilà.
Travaillez bien. Je vous embrasse.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Au revoir, Sarah.
La libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et j'accueille maintenant quelqu'un qui a bien besoin qu'on l'écoute ce soir. Sonia, bonsoir à vous.
Et bonsoir.
J'ai l'impression que ça ne va pas fort.
Bonsoir Sabine. Oh, pas du tout. Vraiment pas du tout.
Alors, respirez, je suis là, je vous fais une petite place à côté de moi.
Merci.
Hein, on va prendre tout le temps qu'il faut, mais je vous en prie, respirez d'abord. Hein ?
Oui.
Ça va aller, on a le temps, je suis là pour vous écouter.
Depuis mercredi, je n'arrive pas à respirer.
Oui, ça fait long. Alors, faites comme moi. On inspire. Et on expire. J'en profite d'ailleurs, pendant que vous le faites, pour vous donner un petit exercice qu'on appelle le câlin du papillon. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Quand on est vraiment très, très stressé comme ça, vous mettez votre main droite sur votre épaule gauche, votre main gauche sur votre épaule droite. Donc, ça vous fait croiser les coudes. Et vous soulevez les coudes au niveau des yeux en inspirant. Et vous expirez en baissant les coudes. Et vous vous serrez les épaules en même temps. Vous faites ça plusieurs fois et vous laissez l'oxygène rentrer tranquillement comme ça. Ça s'appelle le câlin du papillon. Voilà. Alors, racontez-moi maintenant ce qui s'est passé.
C'est un peu long, je vais essayer d'être très concise.
Prenez votre temps.
J'ai appelé Olivier au mois d'avril.
Oui.
J'ai eu Olivier.
Mmh.
Il lui avait expliqué que j'avais eu une relation qui venait de se terminer. J'étais dépendante de cet homme.
Oui.
Lui, c'était lui qui était parti. Que je m'étais occupée de sa fille que j'avais eue à 8 mois.
Cette relation avait duré combien de temps avec cet homme ?
3 ans.
D'accord.
Un peu plus de 3 ans.
Donc c'était la fille de son ancienne compagne, si je comprends bien.
Oui, exactement.
Donc vous avez eu le package, le mari et l'enfant. Enfin, l'homme et l'enfant.
C'est ça. Ouais. C'est sûr que moi, je peux pas en avoir. Donc, on s'est séparés. Et, enfin, on s'est séparés et... Il est parti du jour au lendemain en prenant ses affaires alors que le week-end d'avant, on était en week-end. Bref, il a pris ses affaires sans aucune explication. Il est parti. Ça a été message sur message du mois d'avril jusqu'à maintenant. Message sur message, des reproches venant de lui, venant de moi. Des fois, il revenait gentiment. Des fois, je revenais gentiment. Des fois, j'essaye vraiment d'être concise parce que le plus dur reste à venir, en fait.
Mais attendez, que je comprenne bien. Il vous quitte, donc il y a combien de temps, là ?
Il m'a quitté le 15 avril.
Donc au mois d'avril, il vous quitte sans explication sérieuse ?
Exactement.
Vous viviez ensemble ?
Ah oui.
Donc il vous quitte, ça veut dire qu'il enlève du jour au lendemain, il enlève ses affaires de la maison ?
Le jour de mon anniversaire, oui.
Ah, sympa. Donc il enlève tout, il part où ? Vous savez où il part à ce moment-là ?
Non, il part, il m'envoie un message, il me dit je suis à la rue, mais je préfère rester à la rue que rester avec toi, tu m'étouffes, etc. Je l'étouffe parce que un an avant, il m'a trompé, donc j'avais plus de confiance du tout, donc je contrôlais tout ce qu'il faisait.
Donc c'est lui qui vous trompe et c'est vous qui l'étouffez, ça ressemble à la manipulation ça quand même. Hein,
mais si vous l'écoutez, c'est lui, c'est moi la manipulatrice.
Et c'est lui, oui, c'est bien sûr, tout c'est toujours comme ça. Et donc, pendant quelques mois, il y a quand même un jeu, enfin un jeu malsain d'ailleurs, qui est un peu court après moi que je t'attrape. Il revient, il repart, vous revenez, vous repartez.
C'est ça, ma mère elle me dit, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est surtout lui. C'est dès que moi je lui répondais pas de 2-3 jours, j'étais en week-end avec quelqu'un d'autre. Je faisais, le 16 juin, j'ai eu une opération chirurgicale et il a fallu que j'aille chez une amie pendant 15 jours parce que j'étais alitée. Mmh. Il a cru que j'étais partie en vacances parce qu'il passait devant chez moi, il voyait les volets, tous les volets fermés. Ça a été insulte sur insulte, en me disant « t'es parti en vacances ».
Et de quoi je me mêle, il voulait garder le contrôle finalement.
C'est ça, exactement. Quand je lui répondais pas, il y a quelque temps de ça, il y a peut-être un mois d'août, je lui ai pas répondu pendant 3-4 jours. C'était « ah, j'espère que tu passes une bonne nuit, j'espère que tu vas passer un bon week-end ». En fait, des sous-entendus, alors que j'ai pas de compte à lui rendre, il n'a pas de compte à me rendre. Bah, c'est vrai que moi aussi, hein, je ne jette pas la pierre qu'à lui. Moi aussi, je cherchais à comprendre un peu ce qu'il faisait parce que j'avais l'espoir qu'il revienne. Très honnêtement, j'avais l'espoir qu'il revienne.
C'est ça que j'allais vous demander. J'allais vous demander pourquoi vous ne l'avez pas envoyé balader en disant « tu m'as quitté, maintenant vis ta vie, laisse-moi vivre la mienne ».
Ouais, moi j'avais l'espoir qu'il revienne. Il était.
Vous étiez encore sous emprise. D'accord.
Et donc là, en fait, je vais en venir au fait. En fait, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h36 du matin, parce qu'il faut savoir que quand on parle de manipulation, il faut savoir qu'il dit à tout le monde, elle m'a dégoûté des femmes, elle me contrôle trop, moi je peux plus me remettre avec qui que ce soit, etc. Et à 2h36 du matin, je me rends compte qu'en fait, il est avec... je me réveille. Je sais pas, qu'est-ce qu'il m'a dit, réveille-toi. Je me suis réveillée. Et je me suis rendu compte qu'il était avec une femme. Il était... Il était en relation avec une femme. Parce que c'est une amie qui l'a vu avec.
Attendez,
ce soir-là.
Là, j'ai pas compris, Sonia. Il vous dit réveille-toi, c'est-à-dire qu'il était avec vous?
Non, c'est moi qui. Il y a quelque chose qui m'a dit réveille-toi à 2h36 du matin. Pardon. J'ai eu comme
un flash.
Et j'ouvre les yeux, je vois un message d'une amie à moi qui me dit je l'ai vu avec une fille, etc. Donc là, je lui envoie un message. Je lui dis mais t'as vraiment pas de figure de me faire passer moi pour la mauvaise qui t'a fait dégoûter des femmes, etc. Pourtant, ça t'a pas empêché ce soir d'être avec une fille, etc. Oui, tu racontes des bêtises. Bon, bref, il nie. Je lui dis, écoute, tu nies, mais bon, c'est... Bref, je lui dis, c'est pas vrai, tu es encore un menteur, tu me prends encore pour une idiote, etc. De là, ça s'arrête et je retourne me coucher. Je dis, bon, c'est bon, ça suffit maintenant, je le bloque. Je retourne me coucher, j'ai bloqué son numéro. Mm-hmm. Et je crois que ça l'a rendu fou. À 3h30 du matin, j'ai entendu tambouriner à ma porte, enfin défoncer ma porte à coups de pied. J'ai dit « c'est qui ?» Il m'a dit « d'après toi, c'est qui ?»
Oui.
Et les gens autour de moi me disent « mais tu as été trop bête, tu as été bête d'ouvrir la porte. » Et je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça.
Vous n'avez pas été bête, vous étiez toujours sous emprise.
Et j'ai ouvert la porte. À peine j'ai ouvert la porte, j'ai même pas eu le temps de dire ouf que je me suis pris un coup de poing dans le visage, au niveau de l'œil et du nez.
Est-ce qu'il avait bu ?
Non.
Non, même pas.
Non, mais il fume du cannabis.
Donc il n'était pas dans un état normal. Est-ce qu'il vous avait déjà touché ?
Jamais.
Jamais ?
Non. Non, jamais. Et donc du coup, il m'a mis un coup de poing au niveau du visage et du nez. Qui m'a déstabilisée. Il y avait un meuble derrière moi, j'ai tapé la nuque. Sachant que j'ai déjà cervical, j'ai tapé la nuque. Au niveau du meuble, je suis tombée par terre. Mmh. Il m'a traînée par les cheveux jusqu'au salon, il m'a soulevée par les cheveux. Il m'a plaquée contre un miroir qui s'est cassé. Il a cassé le miroir contre mon dos.
Qu'est-ce qu'il vous disait en faisant ça?
Il me dit moi tu veux me. C'est quoi qu'il disait comme mot? Moi, tu veux diriger ma vie. Enfin, il disait que ça. Aujourd'hui, tu vas mourir. Aujourd'hui, je te tue. Aujourd'hui, je l'ai dit à ta maman. Ce qu'il avait dit à ma mère, 2 semaines avant, il avait dit à ma mère, ta fille, je vais vraiment lui faire du mal. Enfin, je vais lui faire le sourire. Je vais lui ouvrir le visage de la droite à la gauche.
C'est un grand malade, hein?
C'est un grand malade, mais il a jamais rien fait. Vous voyez, il a jamais...
Bah si, là justement.
Là, aujourd'hui, il a fait. Donc du coup, il m'a plaqué, je vous dis, contre le miroir. Le miroir s'est brisé, oui. Contre mon dos. Il a ramassé un morceau de... un gros morceau de verre du miroir et me l'a mis contre la carotide. Et il m'a dit, aujourd'hui, tu es morte. Aujourd'hui, je te tue. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me débattre. J'ai couru, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé la police. Oui. 17 fois. 17 fois. Personne n'est venu. Personne n'est venu. À chaque fois, j'avais quelqu'un qui me disait, oui, madame, on est au courant, le voisin a téléphoné, on va venir, on va venir, on va venir. Personne ne venait. Je suis montée chez le voisin. Le deuxième, oh, il me dit, j'ai appelé deux fois, ils m'ont dit qu'ils allaient venir, vous inquiétez pas. Entre-temps, on entend la porte d'entrée de chez moi claquer. Donc, mon voisin me dit, rentre chez toi, c'est bon, il est parti. Je suis rentrée chez moi, je ferme à clé. Un cauchemar, je vous dis vraiment, ce jour-là, depuis mercredi, tous les bruits me font sursauter.
C'est normal. Mais donc, quand vous êtes rentrée
chez moi, il était là encore, il était sur le balcon, et il m'a dit, tu crois que tu vas m'avoir comme ça? Tu veux appeler la police? Tu veux appeler la police? Ok, pas de problème. Il est parti, mais en fait, il avait pris le double de mes clés pendant que j'étais allée chez le voisin. Il avait fouillé dans mon sac, il avait pris le double de mes clés. Donc là, de là, je le vois partir au niveau du parking, que mon balcon est donne sur le parking. Mmh. Et il me dit, regarde comment je vais t'avoir, pas dans ces mots-là, mais des mots beaucoup plus crus que j'évite de dire à l'antenne. Regarde comment c'est moi qui vais t'avoir, parce que c'est un manipulateur. Il est allé au commissariat. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, de quoi tu parles quand tu dis comment je vais t'avoir? J'ai dit, rends-moi mes clés, je voulais mes clés, moi. Rends-moi mes clés. Il m'a dit, t'inquiète pas, je te les ai mis dans la boîte aux lettres, parce qu'il savait qu'il avait fait une bêtise en volant mes clés. Je te les ai mis dans la boîte aux lettres. Et il me dit, je suis au commissariat, là. Pendant que moi, j'attendais la police. Hein. Donc, il s'est passé bien une heure. Hein. J'attendais la police. Au bout d'une heure, il n'y a personne qui est venu. On me dit, franchement, t'as été vraiment idiot, tu aurais dû appeler les pompiers, tu aurais dû... J'ai pas pensé, je sais que j'aurais dû appeler les pompiers, je le sais maintenant, je le sais.
Oui, mais c'est facile, après coup aussi, c'est... Mais qu'est-ce que lui faisait au commissariat?
En fait, lui, il est allé au commissariat, en disant, écoutez, moi j'en peux plus, elle me harcèle, regardez les messages, etc. Alors que c'est des conversations, il n'y a pas que mes messages. C'est des conversations. C'est-à-dire que lui, quand c'est pas lui qui écrit, c'est moi qui écris. Quand c'est pas moi qui écris, c'est lui qui écrit. Il voit qu'à un moment donné, je lui dis, je te bloque, c'est bon. Maintenant, tu m'as dit adieu, donc adieu pour de bon, etc. Il voit ça. Il le voit. Mais non. Donc moi, j'arrive au commissariat, toute dans un état second, vraiment. Je vais me faire taper. J'avais l'œil qui avait déjà gonflé, les bras déjà boursouflés. Et j'arrive, c'est vrai que j'étais un peu, je parlais fort. Donc le policier qui était en train de prendre sa déposition, il sort du bureau, avec lui. Il me dit, bon, toi, tu te fous là, tu vas te foutre là-bas, tu vas foutre tes fesses ici.
Oh là.
Fais comme ça, tu vas foutre tes fesses ici et tu vas attendre ton tour, t'as compris maintenant? Ça suffit. Enfin, on va parler
comme une sale gosse, quoi.
Donc, voilà. Comme une gosse, j'ai 39 ans. Hein. J'ai pas 15 ans. Donc, ils ont pris sa déposition. Il est ressorti. Il m'a fait un clin d'œil, l'air de dire, je ressors libre.
Est-ce que vous avez porté plainte derrière?
Donc, moi, derrière, je porte plainte.
Bon.
Je porte plainte pour violence conjugale.
Mais évidemment.
Et menace avec arme.
Oui.
Le policier, moi, à l'état second, je l'ai pas vu. Je l'ai vu après, quand je suis rentrée à la maison. Le policier, il a mis en objet, il a mis harcèlement et menace avec arme. Alors que c'est pas du harcèlement, c'est des menaces, c'est des violences conjugales.
C'est bien plus que du harcèlement, oui.
Il m'a tapé, il m'a vraiment fracassé.
Est-ce que vous l'avez fait constater par un médecin, ça?
Voilà, j'en venais à ça. Donc, le policier me dit, bon, ben, tenez, je vous donne ça, il faut aller à cette rue là-bas, il y a le médecin légiste, vous y allez. Donc je vais au médecin légiste. Le médecin légiste, j'arrive, il me met 6 jours d'ITT.
Bon, donc ça, au moins, c'est une preuve dans le dossier.
Hein. Oui. Il me met 6 jours d'ITT. Il constate toutes les blessures, etc. Et je rentre chez moi. Impossible de me calmer, impossible de dormir, de me reposer. Je savais pas quoi faire.
Il y a de quoi, hein, ça s'appelle un état de choc.
J'étais choquée, choquée. Et de là, vers 18h, je reçois un coup de fil d'un numéro que je connais pas. Je réponds, je dis allô. Il me dit « Oui, allô, monsieur, on me donne le nom de ce monsieur, de mon ex-conjoint. » Je dis « Ah non, pas du tout, vous faites erreur, c'est son ex-compagne. »« Ah, vous le connaissez ?» Alors j'ai dit « Oui ». Il me dit « Ben écoutez, il y a une erreur sur la plainte. Le numéro de téléphone de monsieur, on l'a pas noté, on a marqué que votre numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de monsieur parce qu'on va aller le chercher et on va le coffrer ?»
Ah.
Comme ça. Donc, je leur donne le numéro. Et je leur donne le numéro, je suis soulagée, je me dis, bon, en tout cas, aujourd'hui, il ne reviendra pas, c'est sûr.
Alors, Sonia, vous savez quoi? On va garder le suspense, parce qu'il faut que je rende l'antenne pour les informations.
Donc, je vous en prie.
Si vous voulez bien, vous gardez. On s'arrête, puis on met un petit drapeau, on reprendra exactement là. Prenez le temps de respirer, comme je vous l'ai appris il y a quelques instants.
Oui.
Et vous me racontez la suite juste après les infos, d'accord?
D'accord, merci.
Merci beaucoup, Sonia. À tout de suite, ne bougez pas.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur cette deuxième et dernière partie de la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Je vous rappelle tous les chemins qui mènent jusqu'à nous. Le téléphone 3921. Cindy et Nicolas sont là au standard et vous attendent. 3921 pour le numéro de téléphone. Pour les SMS, 73921, suivi du mot nuit et de votre message. Et puis les mails, libreantenne, en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Et puis je vous rappelle que je partage beaucoup de choses avec vous chaque jour sur ma page Facebook Sabine Marin.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Sonia que je retrouve. Sonia, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Merci. Donc vous me disiez juste avant les infos, vous avez reçu un coup de fil, mais vous ne m'avez pas dit de qui?
Oui, je vous ai dit de la police, qui m'a dit.
C'est un policier qui vous a dit que...
Un policier qui m'a dit, on va aller le chercher, donne-nous son numéro de téléphone, on va le chercher. Donc ils sont allés le chercher. Et donc après... il m'a dit, je te tiens au courant d'ici 40-45 minutes, comme si on se connaissait.
J'allais vous demander pourquoi il vous tutoie, oui.
C'est ça. Mais je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, par contre, j'ai dit, on se connaît. Il m'a dit, non, mais moi je suis comme ça, brute de pauvre, je tutoie. J'ai dit, non, mais je préfère qu'on se voit. D'accord, ok, pas de souci. Donc, il m'a dit, je vous tiens au courant d'ici 40-45 minutes de ce qu'il en est. J'ai dit, très bien. Donc au bout de certaines minutes, je reçois un autre coup de fil du même numéro, donc de lui. Et il me dit il y a une petite erreur sur la déposition que vous avez faite. Il faudrait venir, il manque une signature, etc. Donc moi, je prends mes affaires, j'y vais, le commissariat est juste à côté.
Vous n'aviez aucune preuve que c'était bien un policier?
J'avais aucune preuve que c'était bien un policier.
Mais oui.
Aucune preuve, c'est vrai. J'avais même pas pensé à ça, c'est vrai. Il m'a dit, je vous attends devant le commissariat. Donc j'arrive, il me dit, c'est vous. Donc il me donne mon nom, il me dit, c'est vous. Je dis oui, il me dit, venez, suivez-moi. J'arrive. Et c'est là que le pire a fait. Le pire, je pensais l'avoir subi, en fait. Vraiment, je pensais avoir subi le pire, là.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
À ce moment-là, j'arrive, il m'emmène devant un monsieur qui n'a même pas me regarder et qui est en train d'écrire, qui baisse sa tête, qui dit « Bon, madame, vous êtes placée en garde à vue à partir d'aujourd'hui, 19h15. » Avec mon œil ouvert noir, mon nez gonflé, mais tous mes coups. Je lui dis, mais Je comprends pas pourquoi j'ai dit. Je savais pas quoi dire. J'ai dit, mais c'est une blague, c'est un cauchemar. Oui, oui, non, parce que on va démêler. J'ai dit, mais attendez, j'ai dit, mais je suis coupable de rien. Mais la garde à vue, c'est pas fait que pour les coupables, c'est fait pour démêler le vrai du faux. Vous l'avez harcelé. Vous aussi par téléphone, vous lui avez envoyé un message à 2h36, donc maintenant, allez, hop. Et je lui dis, s'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, je ne vais pas supporter. J'ai pas dormi depuis la veille, 3h30. Je vais pas supporter la garde à vue, je vous en supplie. Il voulait rien savoir. Et il dit à son collègue là, qui m'a amené, il dit à son collègue, bon, fous-moi là-bas, elle, comme ça. Bon, fous-moi là-bas, elle m'a saoulé.
Ouais.
Donc il m'amène dans une pièce. Donc d'abord, avant ça, je lui dis, je peux appeler ma maman, la prévenir. Il me dit, oui, vous pourrez l'appeler. Donc sur mon téléphone, il me dit, mais tu fais quoi là? Tu fais quoi? Éteins-moi ce téléphone. Mais fait comme un animal, on lui parle pas comme ça. Il me dit, c'est nous qui téléphonons. Je dis, mais moi je connais pas vos procédures. Je les connais pas vos procédures. Okay. La preuve, c'est que vous m'appelez pour une signature, vous mettez en garde à vue, mais je sais même pas pourquoi.
Ils n'ont pas respecté du tout la procédure, surtout.
Mais il m'a dit, je vous place en garde à vue pour harcèlement, parce que monsieur, elle a porté plainte pour harcèlement, donc lui, il est en garde à vue, vous aussi. J'ai dit, mais c'est des violences conjugales. Vous me parlez de harcèlement pour des messages, alors que lui, il est rentré chez moi à 3h30 du matin. Vous lui avez ouvert la porte, madame.
Oui.
Vous lui avez ouvert la porte, madame. Donc je lui ai dit, je vais ouvrir la porte. J'ai envoyé des messages, et donc ça justifie le fait qu'il me menace de mort avec un morceau de verre, il me fracasse le visage, vous voyez bien mon visage.
C'est n'importe quoi, c'est deux poids, deux mesures.
Hein. Ouais, c'est... Je lui ai dit, c'est un cauchemar, j'ai l'impression que ça s'est pas passé, ou... J'ai pas compris.
Donc là, racontez-moi la suite, donc ils vous mettent en garde à vue.
Ils me mettent en garde à vue, ils me disent bon, on n'a pas de matelas, il y en a qu'un, et il est déjà pris, donc vous irez dans cette cellule-là. Ils me mettent dans la cellule à côté de lui, la cellule collée à lui. Donc toute la soirée, j'ai eu droit à des insultes, à tout ce que vous voulez. J'étais la seule femme j'ai jamais connu. Je vous jure, j'ai encore l'odeur dans mon nez, j'ai encore l'odeur de ces cellules, j'ai encore les bruits dans mes oreilles, j'ai encore les bruits des serrures, les cris, les coups sur les portes.
Et il vous a insulté toute la nuit et personne n'est intervenu?
Personne, oui, il disait, calmez-vous monsieur, calmez-vous.
Ah,
oui, il leur dit, il disait calmez-vous. Mais, donc après le lendemain, j'ai été... Le lendemain, vers midi, j'ai été auditionnée par une femme. Et je me suis dit, c'est une femme, elle va me comprendre. Pas du tout. Mais pas du tout. Je vous dis, c'est un manipulateur. Il a réussi. En fait, lui, depuis qu'il a perdu sa maman il y a 2 ans de ça, j'ai l'impression, je veux pas, mais j'ai l'impression qu'il en joue. Vous voyez, quand ils sont allés le chercher avec les menottes, il était en pleurs. Apparemment, il était en pleurs, il disait, j'ai perdu ma maman, je suis séparée de ma fille, je la vois une fois que tous les 15 jours, et aujourd'hui, je me retrouve en cellule, et elle, je pense qu'elle l'a pris en pitié.
Il joue les victimes.
Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, quand moi, j'ai été auditionnée, en fait, j'ai eu droit qu'à des... Non, mais à un moment donné, quand quelqu'un vous aime plus, il faut lâcher l'affaire. Vous l'avez poussé à bout. Vous l'avez poussé à bout, envoyé un message à 2h36 du matin. Ça ne se fait pas. J'ai dit, faites un légitime. On marche sur la tête. J'avais un avocat, et l'avocat, mais à chaque fois, il me tapait sur le genou l'air de, pour me dire, tais-toi. Genre, je pouvais même pas dire exactement ce que j'avais vraiment sur le cœur, ce qu'il m'avait fait, ce qui s'était passé. Je dis, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de comparer. Du pseudo-harcèlement, alors que c'est même pas du harcèlement, c'est des discussions.
Mais complètement. Discussions. Un SMS privé avec de la violence physique.
C'est ça. Mais c'est des discussions. S'il y avait que des messages de moi, je veux bien que ce soit du harcèlement. Mais il y a des réponses. Il y a des messages qui viennent de lui, de base. Combien il y a de fois où c'est pas moi qui lui écris, c'est lui qui revient à la charge.
On a bien compris, Sonia, la réalité. La réalité est très très loin de ce qu'ils essaient de vous faire croire.
C'est ça. Mais le truc, c'est que je suis tombée sur une policière qui n'était pas du tout impartiale. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle l'avait pris en pitié, j'ai l'impression. Peut-être qu'elle aussi a perdu sa maman ou je ne sais quoi. Mais elle l'avait pris en pitié. Et en fait, quand elle m'a interrogée, elle m'a dit... Elle me faisait culpabiliser sur le fait de me dire... Il faut avoir de la dignité. Il veut plus de vous, il veut plus de vous, il faut lâcher l'affaire.
Mais attendez, l'attestation du médecin pour coups et blessures, ils en ont tenu compte, ils se sont rendus compte de l'importance de ça.
Soi-disant, je l'ai tué à la fin. Soi-disant, ils n'ont jamais reçu, j'y suis jamais allée. Donc ils ont fait revenir à la fin, hein, je vous dis ça, c'était vraiment à la fin, à la sortie de ma garde à vue. Ils ont fait venir un médecin légiste de l'endroit où j'étais allée. Et donc le médecin légiste, c'était une dame. Je lui dis, madame, je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, parce que je me suis présentée. Je lui ai donné l'adresse, etc. Et je lui ai même décrit le médecin. Il m'a dit oui, c'est ça. J'ai dit, depuis tout à l'heure, avant qu'ils appellent le procureur, ils disent qu'ils ont pas le relevé d'ITT.
Le rapport, oui.
Voilà, le rapport d'ITT. Elle me dit non, attendez, on va régler ça tout de suite. Mais ils avaient déjà appelé le procureur, ils avaient déjà laissé sortir monsieur. Moi, j'étais encore là-bas. Ouais. J'étais encore là-bas. Donc, en fait, je suis sûre que s'ils avaient eu le rapport d'ITT, monsieur ne serait pas sorti.
Et pourquoi ils n'ont pas eu, d'après vous?
Moi, je pense, honnêtement, que la policière, elle a fait semblant de ne pas l'avoir. Elle était avec lui. Elle m'a dit carrément, mot pour mot, je les ai appelés, ils m'ont dit que vous n'y êtes pas présenté.
C'est vraiment grave.
Sonia,
on va en reparler. Mais vous voyez, il y a Jean qui envoie un message en disant « Le comportement de ces policiers est inadmissible. Il faut absolument que vous contactiez l'inspection générale de la police nationale. » L'IGPN, la police des polices.
Je vais me noter.
La police des polices pour dénoncer ça, parce que ça, c'est inadmissible ce qui s'est passé là.
Ah non, mais là, je vous jure, j'arrive pas. En fait, c'est une double peine. J'étais rouée de coups dans une cellule, rouée de coups. Lui, il était en toute forme, en pleine forme. Il rigolait, il m'insultait. Moi, j'étais dans tous mes états parce que je connais pas ça. Lui, il l'a connu une fois apparemment quand il était jeune, et ça l'a pas plus choqué que ça apparemment. Ouais. Donc du coup, je vous dis, elle me dit non, vous n'êtes pas rendu à la médecine légale, donc nous on n'a pas les jours d'ITT. J'ai dit si, et j'arrêtais pas de dire si. Mon avocat, il lui dit oui, elle m'a dit qu'elle y était allée. Et en fait, quand j'y suis allée, le médecin il m'a dit non, je peux pas vous le donner la main à la main, je l'envoie directement au commissariat. Mmh. Je suis d'accord. Et donc du coup. Donc quand le deuxième médecin est venu, je lui dis, je comprends pas. J'ai dit l'OPJ qui gère mon dossier, déjà elle est à fond contre moi et je ne comprends pas pourquoi. Et elle dit qu'elle n'a pas reçu que je ne me suis pas présentée tout court, carrément que je ne suis pas allée. Donc je suis une menteuse, je ne suis pas allée. Dans quel intérêt je n'irai pas. Donc elle me dit bon, ça, de toute façon ça va vite être réglé. Elle a dit moi je travaille là-bas, donc je vais appeler le secrétariat. Elle appelle le secrétariat. Elle dit voilà, est-ce que vous avez reçu en plus je lui donne les détails. J'ai dit j'étais la première, je suis passée à 9h. Est-ce que vous avez reçu madame Intel à 9h? Oui. Elle a été reçue par le docteur. Est-ce que vous avez le relevé de d'ITT? Oui, on l'a. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer tout de suite? Elle l'a reçu tout de suite.
Ah ben voilà.
Tout de suite.
Et alors du coup?
Tout de suite. Mais du coup si cette policière là, elle n'avait pas fait comme si elle n'avait pas reçu les jours d'ITT.
Oui,
je serais sortie bien avant. Je serais sortie bien avant de garde à vue déjà premièrement et deuxièmement lui ne serait pas sorti.
J'ai bien compris Sonia, mais on ne peut pas parler de ce qui aurait pu se passer. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez prouvé que vous l'aviez ce rapport?
Ben, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont laissé sortir, mais c'était, ça faisait 24 heures. De toute façon, ils étaient obligés de me laisser sortir. Mmh. Le problème, c'est qu'ils ont appelé le procureur, ils ont appelé la procureure avant d'avoir les jours d'ITT. Parce que si la procureure avait eu les jours d'ITT, il serait pas sorti.
Oui, j'ai bien compris. Mais bon, c'était fait. Maintenant, elle l'a. Tout le monde l'a.
On a eu une confrontation tous les deux avant de sortir de garde à vue. On a eu une confrontation. Oui. Donc, elle nous a appelé par Monsieur A et Madame B. En fait, elle lui posait les questions qu'à lui. Et lui, il se vidait. Il parlait. Elle disait oui, je comprends. Il disait, elle m'a poussé à bout, vous comprenez, 2h36, oui, je comprends et tout. Et moi, elle m'a posé des questions, quand je lui posais des questions, elle disait, ce n'est pas la question que je te pose. Oui. Mais c'est quoi qui rentre pas dans ta tête? C'est quoi qui ne rentre pas dans ta tête? Maître, faites comprendre à votre cliente, là, il y a quelque chose, là.
Elle vous a humilié d'emblée, quoi.
Humiliée devant lui. Et j'étais humiliée d'avoir été tapée, humiliée d'être en garde à vue. Je travaille dans la finance. S'il y a quoi que ce soit sur mon dossier, ma carrière, elle est brisée.
Mais votre avocat là-dedans, il vous a défendu un peu, parce que j'entends pas grand-chose.
Non,
ça.
Franchement, c'est l'avocat commis d'office. On le voit 10 minutes. On a droit de le voir 30 minutes. Et après, les policiers viennent taper et disent ça y est, c'est fini. Donc, en fait, je lui ai expliqué, lui, il n'a pas le droit de parler pendant la confrontation. Il a posé deux questions à la fin. À la fin, il a posé deux questions. Il a dit, monsieur, je comprends. En fait, vous dites que madame s'est fait ses coups toute seule. Donc, expliquez-moi l'œil au beurre noir. Vous pouvez m'expliquer l'œil au beurre noir, le nez gonflé, les bleus et les bleus dans le dos. Il a dit, ben, l'œil au beurre noir, je pense qu'elle s'est pris la tête, elle s'est tapée contre un meuble. D'accord. Et les bleus dans le dos, en fait, elle a fait comment? Elle a pris un marteau et elle a... Voilà les seules questions qu'il a posées. C'est les seules questions qu'il a posées. Mais moi, ce que j'arrive pas vraiment à encaisser, c'est que j'ai appelé la police 17 fois. Tout le monde a appelé. Les voisins, ma maman a appelé.
Mais personne
n'a bougé. Tout le monde a appelé. Personne n'est venu. On me met en garde à vue. Pendant la garde à vue, personne n'a pris à un moment donné mon parti. Donc, s'ils ne veulent pas prendre de parti, qu'ils ne prennent pas parti. Mais là, ils ont pris parti de lui.
Ah, très clairement, oui.
Moi, je ne demandais pas à ce qu'ils prennent mon parti. Déjà, je demandais juste un peu de compassion. Au vu de mon visage, ils auraient dû en avoir. Vous n'avez pas les photos, vous ne voyez pas mon visage. Mais si vous voyez mon visage, n'importe qui se dit, mais. Qu'est-ce qu'elle fait en garde à vue, elle? Qu'est-ce qu'elle fait en garde à vue? Pour des messages et lui, pour des violences conjugales.
Alors, qu'est-ce qui se passe après cette confrontation-là?
Ce qui se passe de cette confrontation, donc elle me dit clairement, de toute façon, c'est moi qui vais appeler la procureure. De toute façon, je sais comment ça va se passer. Hein, tous les deux, vous allez ressortir. Rappel à la loi. Et puis voilà, j'ai dit, et mes jours d'ITT? Elle me regarde d'un air sarcastique. Elle me dit, ah, tu veux de l'argent, toi? Tu veux de l'argent, hein? Je dis, pardon?
Mais c'est hallucinant. C'est quoi?
Ah, ouais. Ah, je vous jure. Ah, mais tu veux de l'argent, toi? Tu veux de l'argent? J'ai dit, on marche sur la tête. Elle m'a dit, oui, effectivement, on marche sur la tête, oui. Elle le regarde, elle lui fait un clin d'œil, elle lui dit, tu vas payer toute ta vie, là, de dire, non, mais t'inquiète pas. C'est ironique ce que je dis.
Mais c'est fou, ça. On a l'impression presque qu'ils sont copains, qu'ils se connaissent.
Oui. J'avais l'impression de ça. J'avais l'impression qu'ils se connaissaient.
C'est pas impossible. Hein.
Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais j'avais l'impression qu'ils se connaissaient. J'ai dit, c'est pas possible.
Ça paraît tellement fou comme comportement qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas dans l'histoire, j'ai l'impression. Hein.
Non, il y a quelque chose qui.
Sonia, il y a énormément de messages de soutien qui arrivent. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais surtout, beaucoup de gens qui vous disent vraiment allez porter plainte à la police des polices pour vous protéger, non seulement de votre ex, mais des agents qui vous ont interrogé.
D'accord.
Allez voir l'IGPN, vraiment. Inspection Générale de la Police Nationale, c'est la police des polices, c'est vraiment, ça me paraît effectivement la première démarche à faire. Parce que rien ne s'est passé de façon légale et normale dans cette histoire.
Déjà, on me fait venir, On me fait venir pour soi-disant signer un papier. J'arrive là-bas, on me met en garde à vue.
Non, j'ai bien compris. Mais alors depuis, comment ça se passe? C'était mercredi?
Depuis, c'était donc ça, lui, il est venu me frapper mercredi soir à 3h30, donc dans la nuit de mercredi à jeudi.
Ouais.
Donc c'était jeudi, en fait, jeudi à 3h30 du matin. Et je suis rentrée et ils m'ont fait venir en garde à vue à 19h15. Je suis sortie de garde à vue à 19h, vendredi 19h. Et depuis, depuis je sors pas de la maison, depuis j'arrive pas à le moindre petit.
D'accord.
Est-ce
qu'il s'est manifesté depuis? Non.
Non, parce qu'elle lui a dit, surtout à moi, vous avez interdiction de le contacter et vous aussi, monsieur, le contacter.
Bon, Sonia, on est bien d'accord que vous n'allez plus jamais le contacter.
Non, pas du tout, non.
Vous êtes sûre de ça, hein?
Certaines, bon. Non, je peux pas, j'avais de l'espoir tant qu'il était, il n'avait jamais été violent, mais je vous jure que ça va vous sembler débile ce que je vais vous dire, mais j'ai plus de haine contre la police aujourd'hui que contre lui qui m'a mis les propres coups.
Ça me semble pas débile du tout, parce que la police était supposée vous protéger et ne l'a pas fait.
C'est ça.
Donc déjà, vous savez, il y a un chemin que vous allez prendre et vous êtes déjà dessus et je trouve ça très positif. D'abord, prendre conscience de des choses et vous avez bien compris comment les choses se sont passées, comment il vous a manipulé. Ensuite, il faut arrêter vraiment maintenant de penser que ça changera parce que là, vous êtes en état de choc, mais vous pourriez être capable dans 15 jours de dire « Non, mais finalement, je vais le rappeler, ça va changer ». Donc, oubliez ça tout de suite, hein, vraiment.
Non, mais je suis déjà en train de... Je vous dis très honnêtement, je suis déjà en train de penser de me dire « Bon, ça sert à rien, je vais pas... » Porter plainte au civil, je laisse tomber.
C'est une grave erreur.
Me faire faire des documents. Il est même pas accusé pénalement. Civilement, je m'en fous de l'argent, moi. Je m'en fiche de l'argent.
Non, mais il est clair que les choses ne se sont pas passées légalement. Donc vraiment, allez porter plainte à la police des polices. C'est très important. Vous n'avez pas été protégé comme vous auriez dû l'être. Il y a eu quelque chose, là, il y a eu un problème. Et donc, je vous disais, ce qui est vraiment important, c'est de prendre vraiment conscience de ce qui se passe. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience. De ne plus jamais attendre quoi que ce soit de lui. De ne plus jamais le contacter. D'en parler. Donc, c'est très bien ce que vous faites ce soir d'appeler pour en parler.
Oui, je vous en parle parce que autour de moi, enfin, j'en parle avec j'ai ma meilleure amie qui habite sur Paris. Mais je sens que les gens... J'ai pas beaucoup de personnes autour de moi. Mais j'ai ma meilleure amie qui est sur Paris, mais je sens que les gens, ils en ont marre. Ma maman, j'en parle à ma maman aussi, et elle a eu une phrase qui a été assez dure, parce qu'elle en a tellement marre aussi, peu cher, je la comprends. Quand elle m'a dit, pendant 24 heures, t'étais en garde à vue, pendant 24 heures, j'ai eu la paix. Parce qu'elle en a marre aussi de cette histoire depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, ça dure. Depuis le mois d'avril, je lui dis, il me manque... Elle suit toute la discussion et tout ça. Cette phrase, elle m'a...
Objectivement, de l'extérieur, je peux comprendre que les gens en aient eu assez de votre relation de couple. Mais là, on n'est plus du tout dans cette histoire-là. On est passé un cran au-dessus et c'est beaucoup plus grave. Que vos histoires de couple aient été pénibles pour vos proches, ça peut se comprendre. Parce que le côté court après moi que je t'attrape, c'est pénible à supporter.
Oui,
bon,
oui,
voilà,
c'est pénible.
Ça, c'est une chose. Puis ça, on n'en est plus là du tout. Là, on en est à des choses beaucoup plus graves. Beaucoup, beaucoup plus graves. Vraiment. Effectivement, il y a Yvette qui vous donne un bon conseil, qui vous dit « Allez au tribunal, demandez à voir le procureur de la République. » C'est quelqu'un qui intervient justement aussi dans ce genre de conflit.
Oui.
Et qui peut vous...
J'écris tout ce que vous me dites.
C'est vraiment important. Le procureur de la République est là pour être une sorte d'intermédiaire, si vous voulez. Et vous allez, c'est quelqu'un de neutre qui en aucun cas ne prendra parti pour ce, je ne sais même pas comment l'appeler, cet ex, on va dire.
Ouais.
Et qui pourra vraiment intervenir pour vous aider, vous donner les démarches à suivre et vous accompagner sur un chemin qui m'a l'air...
Si quelqu'un a une réponse à cette question-là, est-ce que j'ai la possibilité de faire changer... parce que j'étais tellement sous l'état de choc que j'ai pas vu, de faire changer le motif de la plainte. J'ai pas porté plainte pour harcèlement, moi. Moi, j'ai porté plainte pour coups et blessures. De toute façon, c'était flagrant. Je suis arrivée, je suis arrivée fracassée. Donc, si quelqu'un a une réponse à ça, est-ce que j'ai le droit de changer le motif de la plainte?
Ça, je vous avoue que je ne sais pas du tout, ça me paraît un peu difficile. Mais votre médecin peut appuyer ça en recertifiant dans quel état il vous a vu, quoi. Mais vous l'avez déjà, ce certificat-là?
Oui, je l'ai, ce certificat.
Ça, c'est le plus important.
Je l'ai, mais le problème, c'est que le motif, il n'est pas bon. Les motifs, soi-disant, les violences conjugales sont prises très au sérieux. Donc, ils auraient dû marquer violence conjugale. Et là, peut-être qu'il aurait été puni au pénal. Mais harcèlement, il laisse tomber, comme elle a dit dans l'OPJ, je sais très bien où ça va, vous rappelez à la loi, ou alors chacun de votre côté, et puis voilà, quoi. Chacun de votre côté. Moi, je ressors avec un verre noir, un œil gonflé. Lui, il ressort...
Non, j'ai bien compris, Sonia. C'est de la pure injustice et c'est absolument anormal. Mais
voilà, merci. Merci, vous avez sorti le mot injustice.
Ah bah là, c'est du concentré.
C'est ça que je n'arrive pas. J'arrive pas.
Alors, Sonia...
Je n'arrive vraiment pas.
Sonia, respirez, s'il vous plaît. Respirez, déjà. Je ne vous entends pas respirer, là. Allô?
Oui.
Allez, prenez le temps d'une bonne respiration. Il y a plusieurs choses à faire. Est-ce qu'il y aurait moyen que vous soyez chez une amie pendant quelques jours pour ne pas être seule?
Elle habite Paris, ma meilleure amie. Ma maman, elle ne supporte plus.
Et vous ne pouvez pas venir jusqu'à Paris chez elle? Lui dire, voilà, j'ai vraiment besoin pendant quelques jours de me poser avec quelqu'un pour ne pas être seule?
Oui, je peux lui demander, oui.
Est-ce que vous le feriez pour elle, si elle en avait besoin?
Ah oui. Oui.
Eh bien, alors elle le fera sûrement pour vous. Ça me paraît déjà la première chose. Ne restez pas seule. Petit 2, il est impératif que vous voyez un psy. Vous avez besoin, là, de travailler sur ce trauma. Parce que vous êtes en état de choc. Donc là, c'est bien, mais malheureusement, vous savez que moi, je suis dans le cadre d'une émission de radio, donc je peux vous écouter, évidemment, et vous aider un petit peu. Mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin avec vous.
Oui, je sais.
Ce sont les limites de l'émission. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment très très vite aller voir quelqu'un. Très très vite.
Mon médecin déjà de mon médecin de famille, enfin, mon médecin référent qui va venir demain me voir.
Très bien, c'est important, vous pouvez lui parler aussi à lui.
Qui va venir demain me voir et je vais lui demander de me diriger vers un psy. De me faire le certificat médical qu'il faut, parce que, comme je vous ai dit, j'ai une hernie cervicale très sévère qui est collée à la moelle épinière, qui est inopérable, et qu'il faut surtout pas que j'ai de choc dessus. Depuis ça, j'arrive pas à lever mes bras, enfin, il y a plein de choses, mais c'est surtout, moi, quand j'entendais à la télé, la haine de la police et tout, je comprenais sans comprendre, mais aujourd'hui, j'ai la haine. J'ai vraiment une colère contre eux, mais ils ne m'ont pas protégée. Ils sont là pour me protéger. Ils étaient là pour me protéger. Ils ne m'ont pas protégée. Ils m'ont mis à côté de celui qui m'a harcelée. Ils m'ont mis au même endroit que lui. Ils m'ont mis dans le même endroit
J'ai bien compris. Donc, il y a plusieurs choses là qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure. Déjà, est-ce que vous avez contacté l'association, vous savez, la violence conjugale, le 3919?
Oui. 3919, j'arrête pas. Je les ai appelés deux fois.
Et alors?
Je les ai appelés déjà deux fois et on a des écoutantes. Mais c'est pas des psys comme vous. Hein. C'est juste qu'ils vous écoutent, mais ça fait du bien. Déjà, je les ai appelés deux fois et ils m'ont dit qu'il fallait attendre lundi pour revoir le juriste et que le juriste allait être le juriste que j'ai eu vendredi. Jeudi, qu'il allait être choqué, que même lui, je pense qu'il s'attendait vraiment pas à ce que je rentre en détention, je sais même pas comment on appelle ça, en garde à vue.
En garde à vue, oui, bien sûr.
Voilà. Donc il m'a dit, il faut le rappeler lundi, nous on est là pour vous écouter, mais après vous donner des conseils, d'autres conseils, enfin des conseils juridiques, on peut pas, on les a pas, on les connaît pas.
Ils ne sont pas formés pour ça, quoi. Oui.
Non, voilà, ils ne sont pas formés pour ça. Et le 3919, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait deux fois.
Ouais, donc concrètement, il est vraiment important, déjà pensez à votre meilleur ami, vous ne soyez pas seul en ce moment. Les amis, c'est là pour ça. Même si son rôle n'est pas d'être une thérapeute pour vous, son rôle, c'est juste d'avoir une épaule à vous proposer. Vous en avez besoin en ce moment.
Ouais. C'est ça. Mais elle a son mari.
Oui, et Sonia.
Et pas trop pour qu'elle se mêle des.
Sonia, il ne s'agit pas de se mêler, il s'agit de vous tendre la main. Et vous m'avez dit vous-même, si elle était dans la même situation, vous le feriez pour elle.
Ah oui, oui, mais pas tout le monde est. Et pareil, je pense que si je lui pose la question, elle va me dire, ah, tu sais, il y a mon mari, et
demandez
il n'aime pas trop les choses comme ça.
Demandez-lui quand même. Ne serait-ce que deux jours de ne pas être seule. Ne pas être seule.
Je vais lui demander.
Bon, demandez vraiment à contacter la police des polices.
Oui, procureur aussi.
Et le procureur, vraiment. Et je pense aussi qu'il serait intéressant, vous regarderez sur Internet, il y a des avocats qui consultent en urgence. Et ça se paye à la minute ou au quart d'heure.
Donc oui, j'ai appelé, c'est 3 euros la minute. Franchement, j'ai pas allé. 3 euros la minute.
Il y en a qui sont moins chers que ça, hein, certains. Mais il vous faut une aide juridique correcte, parce que là, ça a été n'importe quoi aussi de ce côté-là, j'ai l'impression.
Ah non, mais l'avocat d'office, il est là juste pour, excusez-moi, mais prendre ses honoraires et repartir, quoi. C'est tout. En plus, il me faut rentrer en garde à vue pour me faire auditionner le lendemain à midi. Laissez-moi chez moi tranquille et faites-moi venir le lendemain à midi. Et puis voilà. Ça suffit. Pourquoi vous me faites dormir dans un. Je suis déjà choquée, vous me faites dormir dans un. Je vous dis, j'arrive même pas à effacer cette odeur de mon nez. J'arrête pas de prendre des douches.
Vous êtes vraiment en état post-traumatique.
J'en ai pris 12 aujourd'hui, 12 douches, 12.
Sonia, écoutez-moi, il y a un autre service téléphonique d'urgence qui pourrait être très intéressant pour vous, ça s'appelle le CETU, S-E-T-U. Ce sont des psys diplômés qui donnent des consultations par téléphone 7 jours sur 7 en urgence. C'est le 01 45 26 81 30. 01 45 26 81 30.
D'accord.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vraiment vous avez besoin de parler d'urgence, c'est très très important.
Je vais les appeler. Je vais les appeler.
Tout ça, ce sont des portes à ouvrir.
Le message que je veux faire passer aussi à tous les auditeurs et les auditrices. C'est pas un message de haine, c'est pas un message de. Mais il faut se méfier même de la police, je suis désolée, mais il faut se méfier même d'eux qui vous font croire qu'ils sont avec vous, qu'ils sont là pour vous protéger. Pas du tout. Je dis pas que tout le monde est pas. Je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais là, ils m'ont traité comme une délinquante alors que j'étais victime. Donc méfiez-vous, on vous appelle, on vous dit venez. Venez signer quelque chose ou quoi, de suite, appelez votre avocat, de suite, appelez un juriste, demandez conseil, n'y allez pas comme ça, ne faites pas la même erreur que j'ai faite.
Alors justement, il y a Jean qui vous dit, pour le tribunal, n'allez pas directement voir le procureur, écrivez-lui une lettre recommandée avec votre certificat d'ITT.
D'accord.
C'est plus, ça laisse des traces, une lettre recommandée, il vaut mieux ça que demander un rendez-vous, débarquer comme ça. Hein, pour le procureur.
Ok.
Et n'hésitez pas à aller à votre mairie, demander à une assistante sociale tout ce qui est possible de faire. Mais vous savez, si la police des polices existe, c'est bien qu'il y a des problèmes. Hein.
Ah oui, non mais là, je me dis non, mais c'était sa copine et puis c'est l'humiliation devant lui de me dire non mais il veut plus de toi. À un moment donné, il faut arrêter. Mais tu l'as poussé à bout, 2h36, à un moment donné.
Ça a été humiliation sur humiliation et injustice sur injustice.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Maintenant,
et la confrontation, c'était pas une confrontation. C'était.
C'était une provocation plus qu'autre chose. Hein.
Non, c'était à charge.
Oui, c'est
à charge.
C'est ça. Ouais.
J'avais l'impression que c'était lui la victime. Monsieur, est-ce que vous auriez fait ça si madame vous avait pas envoyé ce message?
Non, mais c'est n'importe quoi.
Non, mais de toute façon, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas frappé, c'est elle qui s'est frappée toute seule.
C'est n'importe quoi. En même temps, Sonia, j'aimerais vous faire voir les choses d'une autre manière. Vous avez surmonté ça. Vous êtes encore sous le choc, mais c'est derrière vous.
Non, non, j'ai rien surmonté.
Si.
Non, j'ai rien surmonté.
C'est passé. C'est passé. Je sais que c'est difficile parce que vous êtes encore en état de post-traumatique, mais c'est passé maintenant. Et vous êtes encore debout, fragile mais debout. et vous avez besoin de vous faire aider très très vite. Il est vraiment impératif que vous trouviez un thérapeute.
Autour de moi on me demande de me relever de suite. De me relever, d'aller, de continuer, d'avancer, de faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé.
C'est pas eux qui passent
les nuits que je passe, c'est pas eux qui passent les journées que je passe.
Sonia,
si tu restes enfermée chez toi.
Sonia, qui est on quand vous dites on me demande?
Ma famille, elle est en train d'écouter ma maman.
Eh oui, mais
elle écoute là, en ce moment, ma maman.
Visiblement, ce sont des gens qui n'ont pas compris vraiment ce qui s'est passé là.
Non, ma maman, elle a compris, la pauvre. Elle a compris, mais elle est dépassée.
On peut pas se relever comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On se relève en se faisant épauler, en se faisant aider par les bonnes personnes. Et là, il y a eu un concours de circonstances qui fait que vous avez été systématiquement confronté à des gens qui ont été contre vous. Donc maintenant, il faut vous trouver des gens qui vous accompagnent. Vraiment. D'abord un psy pour vous aider. Est-ce que vous avez au moins un anxiolytique, un médicament pour vous apaiser un petit peu?
Oui. Bon. Oui, j'ai.
Vous le voyez quand, votre médecin? Demain, vous m'avez dit?
Demain.
Oui. Bon, alors déjà, lui, je pense que c'est très important parce que vous avez confiance en lui.
Ah oui.
Bon.
Oui. Donc, confiance totale à ce médecin.
Ça, c'est formidable. Donc déjà, sur le plan médical, il peut vous aider éventuellement. Je ne sais pas, gérer avec vous un traitement qui peut vous apaiser davantage. Et surtout, vous orienter vers les bonnes personnes, parce que lui, il sait tout ça. Il a les coordonnées de tous ces gens-là. Et puis, il va vous écouter. Ouais. Et comme il vous connaît, je sais que vous aurez confiance aussi pour lui parler.
Ah oui, j'ai une totale confiance en...
Bon, ça, c'est important.
Ah lui, ça fait des années qu'il me suit, il y a quelque chose, il est là. Il est présent, il était en congé cette semaine.
D'accord.
Quand ça s'est passé, quand il m'a frappé, le jeudi, j'y suis allée, le cabinet était fermé, il revenait le 20 septembre. Là aussi, j'ai dit ma chance.
Autre question basique, mais qui me vient à l'esprit, est-ce que vous avez changé votre serrure?
Non.
Ben, je vous invite à le faire rapidement, ou en tout cas mettre un verrou supplémentaire. Parce que
il a déposé de suite les clés, il a déposé de suite dans la boîte aux lettres. De suite.
Qu'est-ce qui vous dit qu'avant, il n'avait pas fait un double?
Ouais, c'est vrai.
Ça ne coûte pas grand-chose de mettre un verrou supplémentaire.
Je suis en train de penser déjà à déménager.
Alors ça aussi, peut-être...
Je change de...
Ça, j'allais vous le dire aussi, mais dans un second temps, vous n'allez pas déménager en 3 jours, ce n'est pas possible.
Ouais.
Mais dans un premier temps, soit aller... Si vous pouvez aller chez quelqu'un quelques jours, pour ne pas être seul. Mettre un verrou supplémentaire chez vous. Vraiment.
C'est ça, c'est que je ne me sens pas...
Ben oui, je sens bien que vous ne vous sentez
pas entourée.
Pas en sécurité.
Pas entourée. Mais pas assez entourée.
J'ai quand même entendu que vos voisins ont appelé la police pour vous. C'est quand même qui vous étiez là. C'est quand même plutôt bien de faire ça. Ils n'ont pas été indifférents.
Oui. Non, le voisin du dessus, il a... Les autres, ils ont été indifférents. J'ai sonné... Oui. Les autres du panier, j'ai sonné. Mais celui du deuxième, il a entendu le bruit, il a appelé la police de suite. Mais quand je vous dis, je suis pas entourée, c'est... Vous savez, quand on a une rupture et qu'on est entouré de plusieurs amis ou de la famille proche, etc., qui sont là pour vous, c'est plus facile à surmonter.
Oui, bien sûr.
Lui, il est très, très entouré. Très, très entouré.
Mais ce monsieur, ce voisin du dessus, est-ce que vous pourriez monter le voir pour le remercier et peut-être lui parler aussi?
Je sais, c'est fait. Bien sûr, je suis allée le remercier le jour même.
Et puis lui dire que vous vous sentez mal et que ça vous rassurait de savoir qu'il n'est pas loin, quoi.
Oui, je ne vais pas y aller là maintenant, mais j'irai, oui, demain.
Je pense que c'est vrai que
je suis allée le remercier le jour même. Quand je suis revenue du médecin légiste, je suis allée le remercier. Il m'a dit non, ne me remerciez pas. Il m'a dit mais c'est normal. Il m'a dit attendez.
Bon.
Il m'a dit moi j'entends des cris. C'est normal que j'appelle la police.
Déjà, vous avez un allié. Peut-être pouvez-vous aller simplement le voir en lui disant juste de savoir que vous êtes là, ça me rassure parce que je me sens très mal et que j'ai très peur.
Ouais.
Juste lui dire ça. C'est important que vous sachiez qu'il y a au-dessus de vous quelqu'un qui est là, qui est prêt. Et qui s'est bougé quand c'est arrivé. C'est quand même rassurant de savoir qu'il est là, cet homme-là. Non. Donc, demain, votre médecin, il faudrait qu'il vous oriente très très vite vers une thérapeute.
Ouais.
Il faut qu'on vous aide à travailler sur ce trauma-là, le plus rapidement possible. Et puis, tout ce qu'on s'est dit, vraiment. Police des polices, procureur, Et là, reprendre, arrêter de subir et reprendre les rênes, si vous voulez. Vous dire, à un moment donné, ça suffit maintenant, quoi. Ça suffit. J'ai assez subi, maintenant, oui, maintenant c'est moi qui attaque. C'est plus, je ne me laisse plus attaquer.
C'est ça, c'est que, déjà, je me dis, là, c'est ce que je suis en train de me dire, tout le week-end, je me suis dit, toutes les démarches que je vais devoir faire, mais comment je vais faire pour faire toutes ces démarches? Mais vous avez... Vouloir aller là-bas, faire ça, faire ci, faire ça, ce papier, envoyer ça, envoyer ci. Je suis découragée. Qu'est-ce que, et les IGPN, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça que je me dis. Je me dis, est-ce que les IGPN, eux, ils vont prendre en compte,
Ne, ne commencez pas à faire les questions et les réponses en même temps, sinon vous allez vous noyer toute seule. Mais en même temps, avec un peu de recul, moi, ce que je vois, c'est que tout ce que vous allez faire, ça va aussi vous apprendre et vous permettre de sortir de cette dépendance affective dont vous souffriez avant. Parce que c'est vrai que la situation, aussi injuste soit-elle, c'est vous qui vous êtes mise dedans. En ne coupant pas les ponts avec cet homme-là.
Ah, c'est ce qu'elle m'a dit, là.
Non, mais elle vous l'a dit de façon absolument ignoble et hors contexte.
Non, mais elle me l'a dit clairement comme ça. Elle m'a dit, vous êtes mise dedans, toute seule.
Mais ça, c'est vrai. Sans aucun jugement, c'est vrai. C'est parce que vous avez besoin de travailler sur ce problème de dépendance affective. Et donc, tout ce qui vous arrive, c'est extrêmement violent, mais en même temps, ça peut être extrêmement instructif pour vous. Vous allez apprendre beaucoup sur vous et changer. Et avoir des relations différentes avec les hommes à partir de cette histoire-là, je pense. Vraiment.
Ah, mais là, je veux pas d'histoire avec qui que ce soit.
Pour l'instant, c'est normal. Mais ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire par là, Sonia?
Oui.
C'est que vous allez aussi...
J'ai une phrase qui me revient aussi, excusez-moi. Pendant la confrontation, elle lui dit, est-ce que vous aimez toujours madame... Toujours madame, elle lui dit, c'est difficile d'oublier comme ça, du jour au lendemain. Elle lui dit, mais ça fait quand même 5 mois. Il dit, oui, j'ai toujours des sentiments pour elle. Elle lui dit, pourquoi vous lui avez dit que vous n'avez plus de sentiments, etc. Et à moi, elle me pose la question, mais elle me l'avait déjà posée avant la confrontation, en comparution, juste elle et moi. Et moi, je lui avais dit, bien sûr que j'ai encore des sentiments, sinon je lui écrirais plus, enfin, voilà. Et donc, de là, quand elle m'a posé la question en confrontation, je lui ai dit, là, depuis aujourd'hui, non, j'arrive plus, je peux plus. Il m'a frappé, donc non, je peux pas. Et de là, elle me dit, donc vous êtes une menteuse. Donc, vous m'avez menti.
Mais bon, laissez tomber tous ces gens-là, mais simplement comprenez que il n'y a aucun sentiment ni d'un côté ni de l'autre. Chez vous, c'est de la dépendance. Chez lui, c'est de la manipulation et c'est un besoin de pouvoir. Mais en aucun cas, il y a des sentiments dans cette histoire.
Je crois que vous avez... Vraiment, je pense que vous avez ciblé parce que avant qu'il se passe tout ça, pendant ces 5 mois où on s'est retiré, où on était séparés, je me disais, en fait, il m'a manipulé pendant toutes ces années-là pour que je m'occupe de sa fille jusqu'à qu'elle soit... propre, qu'elle soit... Okay. Il m'a manipulé sur plein de choses, sur l'argent, sur...
Au-delà de ça, vous savez, je pense que les pervers et les manipulateurs sont des gens qui sont aussi en grande souffrance. Alors, une fois de plus, ça n'excuse rien. Ça explique. C'est probablement quelqu'un qui n'est pas dans l'axe du tout. Qui est complètement déséquilibré pour plein de raisons.
Oui.
Donc, il ne peut pas y avoir de sincérité, il ne peut pas y avoir de sentiment. Il n'y a que de la manipulation, un besoin de pouvoir, un besoin de contrôle. Et de votre part à vous, il serait intéressant, quand vous allez travailler en thérapie là-dessus, de comprendre que ça n'était que de la dépendance. Et quand vous allez arriver à vivre sans être dépendante, vous allez grandir. Et en grandissant, vous allez
construire... Mais je me demande comment on soigne ça. Comment on soigne...
Les thérapeutes seront là pour vous aider, Sonia. On le soigne en en prenant conscience, en parlant, en travaillant dessus. Et ça, c'est pour ça que je vous disais, ça va vous aider à grandir. Et en grandissant, vous allez construire une vie qui sera bien plus sympa pour vous, bien plus agréable. Vous n'allez plus attirer ce genre de déséquilibré.
C'est ça. Et il y a quelque chose qui me revient aussi, c'est que vous savez, on avait des contacts en commun. Il est tellement manipulateur qu'il a réussi à faire croire aux autres.
Oui, mais bien sûr.
Donc à ceux qui étaient de notre côté à tous les deux, soi-disant. Je n'ai plus personne moi de ce côté-là. Ils sont tous avec lui.
N'attendez rien de ce côté-là non plus, c'est une évidence. Les manipulateurs sont en plus souvent extrêmement intelligents. Ils savent parfaitement sur quel levier appuyer pour que ça fonctionne. Donc c'est une évidence qu'il va avoir manipulé tous les gens dans votre entourage. Donc c'est pour ça que je vous dis, coupez tous les ponts avec cet univers-là. Ne répondez plus, effacez le numéro, bloquez-le. Ne cherchez
il
plus,
est bloqué le numéro.
Ne cherchez plus aucun contact. Ne répondez pas au numéro que vous ne connaissez pas, déjà.
Oui. Hein.
Et si vraiment...
Et vous avez vu, au moment où je l'ai bloqué, vous avez vu la...
Et oui, parce qu'il a perdu...
Je l'ai bloqué, il est venu.
Parce qu'il a perdu le contrôle, justement. Là, je pense qu'à ce stade-là, il n'osera pas venir, quand même. Voilà, il faudrait qu'il soit complètement fou. Hein.
Non, il ne viendra pas.
Mais il en plus, je pense que le rendez-vous le plus important, c'est demain, votre médecin, qui pourrait aussi... Est-ce que vous pensez que ça vous ferait du bien d'être pendant quelques jours, peut-être dans une maison de repos, pour reprendre des forces, pour dormir et vous sentir en sécurité?
Peut-être, oui.
Vous pouvez aussi lui demander ça. Si votre ami ne peut pas vous accueillir, vous pouvez aussi lui dire voilà, que vous n'en pouvez plus, que chez vous, vous avez peur et que vous avez besoin d'être prise en charge quelques jours.
Oui, ouais, ouais, ça je peux le faire. Ouais. J'y ai pensé, ouais. Mais je me suis dit peut-être que ils voudront... Enfin, je ne sais pas, j'y connais rien. Je me dis peut-être que je n'y ai pas droit, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre.
Alors arrêtez ça, Sonia. Arrêtez les questions-réponses et arrêtez de dire que vous ne méritez pas. Vous méritez le meilleur. Vous êtes tombé sur un sale type, vous êtes tombé sur un déséquilibré. Ça va vous permettre aussi de grandir et d'apprendre plein de choses de cette expérience-là. Et vous méritez ce qu'il y a.
Je vous jure que j'ai été, dans toute cette relation, j'ai été honnête à 100%. J'ai tout donné. À la police, je m'aurais dit toute la vérité.
Mais je sais, j'ai bien compris. Toute
la vérité.
J'ai bien compris.
Et même en étant comme ça, c'est moi qui ai tout pris.
Vous avez été victime vraiment de beaucoup, beaucoup d'injustices et de beaucoup de violences. Ah, quelqu'un me parle. Attendez, il y a Clara qui envoie un message et qui nous dit « Vous pourriez contacter une association qui s'appelle Elles Imagine. » Je ne la connais pas du tout, cette association. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Clara, si vous pouviez préciser un tout petit peu, ce serait gentil. Association Elle au pluriel.
Je suis dans les Bouches-du-Rhône, moi. Je suis dans les Bouches-du-Rhône.
Elle, j'imagine. Il y a plein d'associations qui aident les femmes. Mais je pense que là, le plus urgent, c'est votre médecin généraliste demain.
Oui.
Peut-être effectivement accepter pendant quelques jours d'être en maison de repos, suivi par un thérapeute, ça serait une très très bonne chose. Pour reprendre des forces. Parce que pour l'instant, c'est très compliqué de prendre des décisions d'aller de l'avant quand on est détruite comme vous l'êtes. Il vous faut un peu de recul, un peu de sommeil, un peu de calme. Et ensuite aborder les choses les unes après les autres pour remonter la pente.
Elles imaginent, tu veux le noter.
Et vous vous rendrez compte dans quelques temps, quand vous aurez remonté la pente, que vous serez bien plus forte. Malheureusement, c'est toujours dans la douleur qu'on apprend des choses de la vie. Hein. C'est jamais dans le coton.
Oui.
Et là, vous en avez pris beaucoup, mais vous êtes debout, vous êtes là, et vous allez apprendre de ça, vous allez grandir de ça. Et vous allez surtout travailler à sortir de cette dépendance affective. Alors on pourrait parler des heures de ça, de pourquoi vous étiez dans une dépendance affective, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour que vous soyez dépendante comme ça. Mais vous le ferez avec un thérapeute, ça. Vous le ferez.
Oui, je vais le faire.
Pour en sortir, justement. Mais vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez, Sonia, vraiment, croyez-moi. Déjà, le fait d'avoir osé appeler ce soir pour en parler, c'est une force. Est-ce que vous en avez conscience?
Honnêtement, non, parce que je suis derrière un téléphone, je me cache derrière un téléphone. Honnêtement, non.
Mais vous
n'arrivez même pas, j'arrive pas à faire les choses toute seule. Depuis qu'il n'est plus là, j'arrive plus à faire les choses toute seule, il faut que je sois accompagnée. Enfin,
mais là,
je suis devenue comme ça.
C'est complètement normal, vous êtes terrorisée là en ce moment. Mais ce soir, personne ne vous a pris la main, vous l'avez fait toute seule de m'appeler.
Oui.
Oui, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier. Fermez les yeux, moi je vais fermer les miens aussi. Fermez les yeux quelques instants, Sonia, d'accord? Imaginez que je suis à côté de vous et que je vous prends dans mes bras. Juste ça. Juste ça. Hein? Je pose ma main sur votre épaule et je vous permets de souffler un peu. Et de vous entourer de la plus belle énergie possible. Hein? Vous avez besoin que ça sorte, hein, tout ça. Et c'est normal. Il faut que ça sorte. Si seulement je pouvais être à côté de vous pour de vrai. Je sais à quel point c'est difficile, mais c'est bien que ça sorte. Autorisez-vous à lâcher tout ça. Vous savez ce que je vais faire, Sonia ? Sonia. Sonia. Je peux vous parler ?
Oui.
Vous savez ce que je vais faire ? Je ne peux pas vous le dire, là, si vous ne m'écoutez pas. Alors, respirez. Est-ce que vous acceptez que je vous fasse un cadeau ? Allô ?
Oui. Oui.
Respirez. Prenez le temps de respirer. C'est bon ?
Oui.
Respirez vraiment, jusqu'au bout. On souffle. Voilà.
Pour un verre d'eau.
Allez-y, prenez un verre d'eau. Après, je vais vous dire quel cadeau je vais vous faire, d'accord ? Ça y est ?
Oui.
Alors,
je vous en prie,
c'est complètement normal et on est aussi là pour ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'enregistre régulièrement des séances d'hypnose que les gens peuvent commander et j'aimerais vous en offrir une si vous le voulez bien et vous l'envoyer par internet.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
Vous avez un ordinateur ?
Non, mais j'ai un iPhone 12 Pro.
Oui, donc avec un téléphone, vous recevez les mails.
Oui, oui, oui.
Donc ce que vous allez faire, c'est que quand on va se quitter là dans quelques minutes, vous n'allez pas raccrocher.
D'accord.
Et vous allez laisser votre mail à mes assistants.
D'accord.
Et je vous promets qu'avant d'aller dormir ce soir, je vais vous envoyer une séance pour vous calmer.
Merci infiniment. Merci beaucoup.
Que vous pourrez écouter pour que ça redescende tout ça. C'est vraiment... Tout ce que je peux faire là en urgence ce soir, c'est ça. C'est vous offrir cette séance-là pour vous permettre de respirer et de calmer tout ça. Hein.
Merci. Merci Sabine. Merci infiniment. Vraiment. Grand merci.
Je le fais du
fond. Merci à tous les auditeurs qui m'ont donné des conseils, qui ont donné des...
Du soutien.
Du soutien. Merci à ceux qui m'écoutent. Merci à maman qui écoute aussi. Elle vous écoute là, elle écoute tous les jours votre émission.
Ben je l'embrasse, votre maman.
Tout le temps.
Donc voilà, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord respirer, parce que l'oxygène, on en a besoin. Hein. Promettez-moi de faire le câlin du papillon, comme je vous ai expliqué.
Oui, ça je le ressens, ouais.
C'est très agréable de se prendre soi-même par les épaules, et voilà, on monte les coudes, on inspire, on baisse les coudes, on expire. Et on apprend à se calmer. Ensuite, vous laissez votre mail. Je vous promets que dans l'heure qui vient, je rentre chez moi et je vous offre cette séance de relaxation.
C'est gentil, merci beaucoup.
Comme ça, vous aurez ma voix qui va vous accompagner quand vous en aurez besoin, si ça vous fait du bien.
C'est ça, ça me fait du bien.
Ensuite, demain, votre médecin, ça c'est vraiment le plus important.
Hein ? Oui.
Faire un point complet avec lui et voir toutes les aides qu'il peut vous apporter et vers où il peut vous diriger.
D'accord.
Par rapport aussi à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Et je pense que comme vous n'aurez pas tout enregistré, vous pourrez réécouter l'émission sur europe1.fr, en replay ou en D'accord. podcast, et comme ça, vous pourrez peut-être renoter des choses. D'accord Sonia ?
D'accord,
alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se quitter, mais vous ne raccrochez pas.
D'accord.
Je vous passe Cindy, c'est ça Cindy, tu es là ? Oui. Je vous passe Cindy qui va prendre votre mail.
Oui.
Et vous me laissez juste le temps de terminer l'émission, de rentrer chez moi, et je vous envoie cette séance.
Je vous en prie, Sabine, hein, merci beaucoup, c'est gentil.
Et vous allez l'écouter cette nuit pour vous aider à respirer calmement et vous calmer.
Oui, d'accord.
Et surtout, promettez-moi de me donner de vos nouvelles dans pas longtemps.
Je vous promets de donner de mes nouvelles, vous promets.
Je vous embrasse
merci
très très
infiniment.
Fort. Je vous embrasse
merci
très très fort, Sonia. Et surtout,
merci,
ne raccrochez pas, d'accord ?
Non, je ne raccroche pas.
Je vous embrasse, Sonia, à bientôt.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir. La Libre Antenne se termine ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouvez à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 23h. D'ici là, bien sûr, on reste en contact sur ma page Facebook. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Parfois, vous devez renoncer à certaines personnes, non pas parce qu'elles ne comptent pas pour vous, mais parce que vous ne comptez pas pour elle. Je vous embrasse, passez une très bonne nuit et à bientôt.